Vous écoutez France Musique.
Bonjour à toutes et à tous, c'est le matin des musiciens du mercredi. Alors aujourd'hui, le matin des musiciens du mercredi se promène, se transporte au château Chanorier de Croissy-sur-Seine, tout à côté de Paris. C'est un très très joli endroit et il y a un trésor dans ce château. Et c'est cela qui explique notre visite et le fait qu'on soit si bien accueilli par le pianiste Yves Henry. Bonjour Yves. Alors oui, il y a un petit trésor dans ce château de Croissy, il y a un salon. D'ailleurs, c'est tout juste si on ne passe pas devant sans s'en apercevoir, une petite porte qui s'ouvre au milieu d'un escalier. Et là, on arrive dans une pièce qui fait à peu près 60 mètres carrés, dans laquelle il y a des pianos magnifiques. Alors, la radio, ce n'est pas visuel, mais alors, j'aimerais décrire à la fois ce que nous voyons et l'émotion que nous ressentons, toi et moi, évidemment, mais aussi les quelques personnes qui sont venues assister à cet enregistrement. Ce sont des pianos Erard et Pleyel des premiers temps, les premières générations de ces pianos. Alors, ça va du piano carré de 1787 à un magnifique Erard devant lequel tu es, là, de 1844, et en passant par d'autres que... On va faire la visite, hein, tu vas nous faire le tour du propriétaire tout à l'heure. Alors, je dis le propriétaire, c'est pas tout à fait indu comme mot, parce que tu es le président d'une association qui s'appelle...
Association pour le piano Pleyel de Croissy.
Voilà, qui fait vivre, qui bichonne, qui oui. protège ces pianos...
Qui est né d'ailleurs, la raison principale de la création de l'association en 96, ça a été la découverte dans le château où nous nous trouvons actuellement d'un piano qui fait donc partie de cette collection et qui est un piano de Pleyel de 1837 et qui était dans ce château à l'état d'abandon complet et que je trouvais tout à fait par hasard un jour où je me rendais à cette bibliothèque puisque j'habite pas très loin et il y avait donc sous un escalier un instrument laissé complètement à l'abandon, poussiéreux, on voyait bien qu'il était maltraité, que beaucoup d'éléments manquaient. On avait volé les fermoirs sur le côté, qui maintenant, bien sûr, après restauration, sont revenus. Et nous avons créé l'association autour de ce piano pour le faire revivre. Et il a revécu à partir de 1999, qui était le 150e de la mort de Chopin. C'était la première utilisation du piano rénové. Et puis après, nous avons acquis les autres instruments qui sont ici.
Alors devant toi, il y a un Erard, magnifique Erard, on en parlera plus tard, mais cet Erard était peint en noir, tu m'as dit ça
oui,
tout à l'heure,
et
vous
oui,
avez
oui.
retrouvé la couleur de l'acajou originelle.
Voilà, il a été décapé complètement, puisqu'il a été lui aussi restauré entièrement, et quand on l'a décapé, on a retrouvé l'acajou originale qui est absolument fabuleuse. En plus, ce sont des instruments qui ont des vernis au tampon, donc c'est magnifique, ce
Alors
sont aussi des œuvres d'art.
On a envie de les caresser, de les toucher, enfin c'est un plaisir des yeux, mais aussi du toucher. Alors vraiment à double titre, hein, vraiment, toucher les pianos pour les jouer, mais toucher les meubles, les bois, la beauté des bois, le lissage, et puis tout le petit matériau, la technique qu'il y a à l'intérieur, on en reparlera là aussi tout à l'heure. Je dirais, il faudrait, après une SPA, il faudrait une SPP, hein, la Société Protectrice des Pianos, parce que moi aussi, il m'est arrivé dans des lieux improbables de trouver des pianos totalement abandonnés, poussiéreux, qui tiennent à peine sur leur chambre ou sur leurs pieds, avec des lyres complètement massacrées. Là, les lyres, c'est ce qui est en dessous du piano, qui permet de faire tenir les pédales, hein, qui met les pédales en réaction avec la mécanique. Les lyres ici, alors ça porte vraiment le nom de lyre et on sait pourquoi, parce que maintenant elles sont toutes droites, ça n'a plus rien à voir avec le mot lyre. Là, les lyres sont somptueuses, hein, là aussi décorées, raffinées, une marqueterie superbe. Alors, j'avais envie depuis toujours, on est quand même à la 9e saison de cette émission, j'avais envie depuis toujours de consacrer une émission à Chopin, d'une part, mais Chopin sur les pianos d'époque, donc là on est vraiment au cœur du sujet, mais je t'invite aussi alors à triple titre, d'abord parce que tu es le président de cette association, que tu fais vivre cet endroit, Le second titre, c'est parce que tu es président du festival de Nohant, du festival de Chopin à Nohant. Et alors, cette année, c'est Byzance. Hein, il ouvre ce festival très bientôt, d'ailleurs.
Oui, le 7 juin.
Le 7 juin, donc dans quelques jours, jusqu'au 23 juillet. Et alors, je ne vais pas tout dire, mais alors, entre Nikolaï Louganski, Jean-Philippe Collard, Jean-Bernard Pommier, Gauthier Capuçon et Franck Bralet, Ivo Pogorelitch, Aldo Ciccolini, Anne et Yann Kefelek, des petits jeunes, on ne les oublie pas. Tu ne les oublies pas, donc il y a Lucas Geniusas et Nicolas Roséinoff, les conférences habituelles, j'ai vu qu'il y avait Mont-Saint-Jean, Le Cher et si documenté Jean-Jacques Heigeldinger, avec qui tu travailles d'ailleurs et collabores depuis tant d'années, et puis toi qui donne des concerts, qui accueille le public, qui fait des conférences, des masterclass aussi, enfin c'est un programme très très riche, donc du 7 juin au 23 juillet, ça c'est vraiment un beau lieu de visite, de détente et puis de partager des émotions musicales, les recevoir au plus haut niveau du 7 juin au 23 juillet à Nohant.
Ce petit village du Berry où se trouve la maison de Georges Sand, qui appartient au Centre des Monuments Nationaux, qui est notre premier partenaire, c'est un endroit qui a été protégé, qui est resté d'une authenticité totale, est un lieu un peu magique parce qu'il nous met en communication. On aura l'occasion d'en reparler justement avec les pièces que je vais jouer tout à l'heure, parce qu'on entre en communication directe avec Chopin, qui y a passé 7 étés successifs, de 1839 à 1846, et il y a donc composé l'essentiel, sans doute le meilleur de son œuvre.
Oui, oui. Et puis la troisième raison pour laquelle j'ai voulu qu'on se voit aujourd'hui, c'est la sortie, il y a quelques jours, dans les bacs des meilleurs disquaires, d'un coffret édité par les éditions Soupir, où tu joues avec tes amis et complices musicaux habituels. Alors, il y a ton frère, Gilles Henry, au violon. Il y a le violoncelliste Adrien Frasse-Sombet, la soprano Julie Fuchs, que nous aimons beaucoup, et le ténor Xavier Le Maréchal. C'est la reconstitution du dernier concert de Chopin à Paris le 16 février 1848. Donc, avec le programme, ça, tu vas nous en parler. On en entendra quelques extraits pendant l'émission. Place à la musique. On va commencer avec deux pièces sur deux pianos différents. D'abord, l'étude posthume en la bémol majeur de Chopin sur le Erard de 1844. Et puis, le temps de passer dans l'autre angle de la pièce, ce sera le prélude opus 45 en do dièse mineur, cette fois sur un pleyel de 1837 qui n'est pas d'ailleurs accordé au même diapason que le Erard. Alors, on t'écoute, Yves Henry, pour le matin des musiciens du mercredi à France Musique, Chopin, étude posthume, prélude opus 45. à France Musique, aujourd'hui non pas au Studio 106, mais au château Chanorier de Croissy-sur-Seine, nous venons d'entendre Yves Henry, qui nous a joué d'abord sur un Erard de 1844, l'étude posthume en la bémol majeur de Chopin, et puis de Chopin toujours, mais cette fois sur un Pleyel 1837, le prélude, le fameux prélude isolé, si énigmatique, opus 45 de Chopin. Alors Yves, un petit mot sur ces deux pièces. Par exemple, l'étude, qu'est-ce qui a motivé le fait que tu veuilles jouer aujourd'hui dans cet endroit précis et sur ces pianos particuliers, cette étude en la bémol ?
D'abord parce que j'ai choisi des œuvres qui sont plutôt adaptées à ces instruments d'intimité, on va dire, qui ne sont pas des œuvres qui projettent beaucoup, mais qui sont plus dans la nuance, dans la subtilité. Et spécialement, pourquoi cette étude ? Parce que c'est une des premières œuvres que Chopin va composer quand il arrive à Nohant en juin 1839 pour la première fois, arrivant de Marseille après le fameux séjour au Baléares avec George Sand, qui a été un peu mouvementé, c'est le moins qu'on puisse dire. Et on a dans la correspondance de George Sand de l'époque, et même de Chopin d'ailleurs, la preuve que c'est une véritable Renaissance. George Sand dit en gros, voilà, la nature est merveilleuse, Chopin reprend goût à la vie. D'ailleurs, il commence à nouveau à composer. Voilà. Et c'est une des toutes premières œuvres qu'il va composer à la demande de Moscheles, puisque c'est Moscheles qui lui aura commandé ses études pour sa méthode de piano.
Et le prélude ?
Alors le prélude, évidemment, c'est plus tardif dans les séjours de Chopin à Nohant, mais c'est ce rapport avec son très grand ami Delacroix, cet échange qu'il avait en permanence avec Delacroix sur la façon de rendre la couleur en musique, c'est-à-dire en peinture, on voit tout à fait ce que cela veut dire, la couleur, mais en musique, qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, c'est l'utilisation de plusieurs tonalités et d'énormément de tonalités dans un même morceau, alors que depuis l'époque classique, on apprend à utiliser des tonalités voisines, c'est-à-dire celles qui ont finalement beaucoup de notes en commun. Et tout l'art de Chopin, d'ailleurs, pas seulement dans ce prélude, mais ça, c'est sans doute le plus bel exemple, il navigue un peu comme un improvisateur de génie qu'il était aussi, sans doute, dans l'intimité, au travers de toutes ces tonalités qui sont autant de couleurs changeantes. Et quand on sait que c'est Delacroix lui-même qui a ramené le manuscrit de l'œuvre à Paris pour l'éditeur, on voit là qu'il y a un lien très très fort, dont parle d'ailleurs George Sand, je crois, dans un très beau texte où il est question de la note.
Justement, je l'ai apporté parce que dans le livre de notre ami Jean-Jacques Heigl-Ninger, qui est vraiment un des grands spécialistes mondiaux, si ce n'est pas d'ailleurs le plus grand spécialiste mondial de Chopin, il y a un très beau livre qu'il a édité chez Fayard il y a quelques années, L'univers musical de Chopin, qui est une mine de renseignements, L'univers musical de Chopin, il cite ce texte de George Sand où il dit que peut-être elle romantise un petit peu, mais enfin le fond est là. Elle parle de cette rencontre, de cette soirée au cours de laquelle Delacroix et Chopin échangent, et en présence de Maurice, le fils de George Sand. Voici le texte de George Sand. Elle dit « L'harmonie en musique, dit Delacroix, ne consiste pas seulement dans la constitution des accords, mais encore dans leurs relations. » Dans leur succession logique, dans leur enchaînement, dans ce que j'appellerais au besoin leurs reflets auditifs. Eh bien, la peinture ne peut pas procéder autrement. Tiens, donne-moi ce coussin bleu, alors il s'adresse à Maurice, donne-moi ce coussin bleu et ce tapis rouge, plaçons-les côte à côte. Tu vois que là où les deux tons se touchent, ils se volent l'un l'autre. Le rouge devient teinté de bleu, le bleu devient lavé de rouge et au milieu, le violet se produit. Tu peux fourrer dans un tableau les tons les plus violents, donne-leur le reflet qui les relie, tu ne seras jamais criard. Est-ce que la nature est sobre de ton ? Est-ce qu'elle ne déborde pas d'oppositions féroces qui ne détruisent en rien son harmonie ? C'est que tout s'enchaîne par le reflet. On prétend supprimer cela en peinture. On le peut, mais alors il y a un petit inconvénient, c'est que la peinture est supprimée du coup.
Et Chopin écoute cela admiratif. Et puis il dit une chose très drôle. Il dit, alors c'est évidemment, c'est George Sand qui le rapporte, mais il dit, ah, cela est totalement neuf pour moi. C'est extraordinaire. Et en vérité, ça ne l'est pas du tout, parce que c'est exactement ce qu'il cherche lui-même en musique et c'est ce qu'il obtient. Mais il est content de l'entendre formuler d'une manière extrêmement claire par Delacroix.
Mais au fond, ce prélude, est-ce qu'il est d'abord un prélude ? Il n'est pas vraiment un nocturne ? Est-ce qu'il est plus dans l'idée d'une improvisation, un soir, enfin quelque chose qui aurait à voir avec un crépuscule quelconque, mais vraiment, on imagine Chopin se confier au piano et au gré de son inspiration, de ses états d'âme, de ses trouvailles sonores et de ce que telle trouvaille engendre comme réflexe ou comme reflet ou comme réaction. Comment tu définis ce prélude ?
Moi, je pense que c'est effectivement une promenade nocturne, mais pas seulement, qui est une somme aussi de souvenir de ce qu'on a vu dans la journée, c'est-à-dire les choses qui changent. Et finalement, là où la musique avant Chopin est assez bien délimitée, c'est-à-dire on termine une phrase et puis on en commence une autre, eh bien là, ça a tendance à non pas s'arrêter et reprendre, mais se transformer en permanence. Et c'est ce qui donnera plus tard la naissance au style de Richard Wagner, cette phrase qui ne s'arrête plus. Avec Chopin, on commence à sentir cela, il ouvre vraiment une porte là. Moi, ce que j'aime beaucoup, notamment dans ce prélude, mais pas seulement, il y a ça dans beaucoup d'œuvres de Chopin, c'est que justement, il arrive à nous faire passer dans des tonalités, donc des couleurs, auxquelles en principe le compositeur n'a pas droit parce qu'elles sont trop éloignées, et surtout on ne les sent pas arriver. C'est-à-dire que, aussi bien chez Schubert, Schubert le fait, mais il vous annonce, voilà, vous allez entendre, on va aller ailleurs. Et puis il y va, et effectivement on y est. Mais avec Chopin, c'est beaucoup plus subtil, en ce sens que c'est comme si vous traversiez un mur sans vous en apercevoir, où il n'y a pas de porte, et puis tout d'un coup vous êtes de l'autre côté, et vous ne vous en êtes absolument pas rendu compte. Et ça, c'est un des charmes fondamentaux de l'organisation de la musique de Chopin, qui paraît improvisé et est en fait, bien entendu, le fruit d'un travail acharné et d'une organisation qui, à la fois, tient compte complètement des lois, puisqu'il était formé à Varsovie par des maîtres qui lui ont enseigné Bach et Mozart, qui plaçaient au-dessus de tout, mais il a su apporter quelque chose, tout en conservant cela, quelque chose de tout à fait nouveau.
Alors, sur ce Pleyel 1837, tu nous as joué ce prélude opus 45 et tu m'as parlé, en préparant l'émission, tu m'as parlé de cette fameuse note bleue. Qu'est-ce que c'est d'abord une note bleue dans l'esprit de Chopin et dans ce prélude, où se dissimule-t-elle ?
Je ne l'ai pas spécialement cherché, mais à force de jouer ce prélude et en tout cas de l'aimer beaucoup, je me suis rendu compte qu'il y a un moment, parce que c'est George Sand qui parle de cette note bleue. Pour elle, la note bleue, c'est aussi, bien sûr, cette couleur bleue du ciel nocturne, un bleu assez doux, assez sombre en même temps, qui existe, d'après elle, dans ce prélude. Et il y a un moment de suspension avant la fin de ce prélude, qui précède d'ailleurs un moment très diffus, où on a l'impression que là, tout se mélange, ou presque on voit les choses au travers d'un vitrail. Et pour moi, cette note bleue, c'est justement ce qui arrive ici, après le retour du début, il y a une réexposition, ça recommence, on peut dire, pratiquement comme au début. Et puis ça va aller ailleurs. Et puis à ceci. Qui se résout. Mais quand même, quand on entend ça tout d'un coup, c'est un accord qui surprend.
Imaginons ça. Il a été écrit en quelle année, ce prélude ?
Je ne sais plus exactement, parce que c'est se situe début... dans les années 42-43.
Voilà, c'est ça. Alors, rejoue-nous cet arpège.
Si je joue que l'accord.
On est chez Wagner. Pratiquement
en fait, c'est un accord
dans les tensions wagnériennes de la fin de Parsifal.
C'est un accord qui pourrait être très banal, oui, mais auquel il ajoute cette note. Et surtout, il fait une chose, c'est qu'il met en dessous de la note sa résolution. Et c'est ça qui
Rédo.
Donne. Voilà. Et ça se résout après, mais il y a un point d'orgue. Et ensuite, il y a le fameux passage dont je vous parlais, où on a l'impression vraiment
rejoue-nous, qu'il joue avec les couleurs. C'est tellement magique.
Surtout sur
tous ces frottements,
ce piano,
les glissements voilà, progressifs.
Et là, il n'y a plus aucune référence à une tonalité quelconque, sauf au début. Mais très vite, ça change. Voilà. Et là, il y a une véritable alchimie sonore qui crée l'illusion de changements successifs de couleurs.
Oui, et on ne pense plus à la tonalité du tout, d'ailleurs.
Du tout.
Pense à la couleur.
Voilà.
Et je dirais même à l'émotion que chaque accord ou que chaque paire d'accords provoque.
Voilà. Et moi, j'aime bien dire que Chopin est un alchimiste du son. C'est-à-dire, vous savez, il s'est passé de l'orchestre finalement très, très bien. Et non pas parce qu'il se considérait pas capable d'écrire pour l'orchestre, mais c'est surtout parce qu'au piano, il pouvait maîtriser absolument tout, c'est-à-dire tout expérimenter. Et avoir le résultat précis, puisqu'il note sur ses partitions, et ça, on peut le constater en regardant tous les manuscrits, il note non seulement les indications habituelles, mais il note toutes les pédales avec une précision totale, et qui fait que l'instrument piano résonne différemment quand on utilise la pédale, comme il l'a écrit, parce qu'à ce moment-là, tout le piano entre en résonance, et c'est aussi ce qui se produit d'ailleurs dans ce prélude. Je vais vous donner un exemple qui est juste après, on a ça... Et puis tout d'un coup, il introduit cette note qui transforme, puis une autre. Voilà, c'est progressif, c'est successif. Il procède par petites touches. Et je pense en ceci, et je ne suis pas le seul évidemment à le penser, parce que je crois que c'est une évidence depuis longtemps, il a apporter vraiment tout ce que Debussy portera, alors lui, non seulement au piano, mais aussi à l'orchestre, cet univers avec des résonances qui couvrent tout le clavier.
Tu disais le mot alchimie, c'est Debussy qui parlait de ma petite chimie harmonique, oui, ou ma chimie sonore.
Ouais. Et l'intérêt, bien entendu, des pianos de cette époque, et notamment de pouvoir les jouer, puisque les regarder, c'est très bien, mais pouvoir les jouer, se rendre compte, non seulement sur le plan du toucher, ce que ça peut représenter, mais surtout sur le plan sonore, puisque ces instruments, celui que j'ai là sous les doigts, vous pouvez l'entendre très facilement, il a des basses qui sont assez cuivrées, il a un médium très chantant comme un violoncelle, il a un médium aigu qui est extrêmement suave, et puis il a des aigus qui deviennent cristallins dans le meilleur des cas, ou un peu faiblards quelquefois, mais en tout cas tout cela donne une espèce de richesse, ce n'est pas du tout un handicap, au contraire.
Est-ce que tu pourrais par exemple jouer une basse de ton choix et que tu la laisses vibrer pour le micro de France Musique plusieurs secondes, qu'on entende les vibrations de cette note?
Bien sûr. Le son est exceptionnellement long, ou même ici.
Voilà. Ce qu'on appelle de la longueur en bouche.
Et on va profiter des micros de France Musique pour, je vais vous faire écouter quelque chose que je fais souvent entendre justement pour expliquer qu'est-ce que c'est que le phénomène de résonance par sympathie, c'est-à-dire les harmoniques qui sont contenues dans une basse et qu'on va retrouver, qui vont venir enrichir une note. Et c'est ce qu'utilise Chopin. Vous avez par exemple, je prends cette note, elle est très belle. Et maintenant, je vais lui ajouter délicatement une basse, une fondamentale, et vous allez entendre ce qui se passe dans cette note. Tout d'un coup, elle s'enrichit. Voilà. Et ça la prolonge en même temps, et puis ça la modifie. Et c'est tout l'art de Chopin, se situe beaucoup dans la main gauche, qui constitue avec ses accompagnements très sophistiqués, très délicats, très finement ciselés, la manière en fait de faire chanter le bel canto de la main droite.
Puisque tu évoques le bel canto, je crois qu'on peut écoutez, à ce moment de l'émission, un des extraits de ce très beau double album qui vient de sortir chez Soupir Éditions, où tu reconstitues, tu vas nous en parler après, tu reconstitues avec d'autres amis musiciens ce fameux dernier concert parisien de Chopin en février 48, 1848. Et là, la cantatrice Julie Fuchs, magnifique jeune soprano, chante dans ce concert, et donc sur cet album, l'air extrait des I Capuletti e Montecchi, donc les Capulet et les Montaigu, Roméo et Juliette, pour faire court, cette air est Commis in lieta vesta. On l'écoute et c'est toi d'ailleurs qui l'accompagne au piano sur ce fameux Pleyel qu'on vient d'entendre et dont on vient d'entendre justement toute la suavité des sonorités.
Yeah.
Un air est comme in lieta vesta, extrait des Capuletti e Montecchi de Bellini, alors le pur bel canto, interprété par Julie Fuchs, soprano, et Yves Henry sur le Pleyel de 1837, qui nous sert presque de fil rouge pour cette émission. Je rappelle que nous sommes ici au château Chanorier de Croissy-sur-Seine, tout à côté de Paris, et que dans ce château, d'abord qui est un très joli endroit avec un beau jardin, eh bien, il y a une petite pièce au trésor avec plusieurs pianos très anciens de Erard et de Pleyel qui sont bichonnés par l'association Piano Pleyel Chopin de Croissy.
Voilà, et c'est un enregistrement que nous avons effectué à un endroit historique là aussi, puisqu'il s'agit des salons dans lequel résidait Delphine Potocka, cette grande chanteuse amie de Chopin, et Place Vendôme, actuellement donc, une marque de joaillerie célèbre, Chaumet, qui entretient merveilleusement ces lieux et qui est une des perles de sa joaillerie, je dirais. Et nous avons enregistré là-bas en décembre 2010, et c'était une expérience assez émouvante de se trouver là, parce que c'est aussi l'endroit exact où Chopin s'est éteint dans la nuit du 16 au 17 octobre 1849, puisque ses amis s'étaient réunis pour lui offrir un logement décent, alors qu'il n'avait plus de subsides du tout. Il n'avait plus les moyens d'enseigner, donc il était trop, trop faible. Et donc les trois dernières semaines de sa vie, il les a passées là, Place Vendôme, dans un petit appartement sur cour. Et puis dans les tout derniers jours, on l'a ramené sur le devant, c'est-à-dire vraiment sur la Place Vendôme, pour qu'il puisse voir cette harmonieuse place, très classique dans son style et très, très dans l'esprit justement de Chopin, on va dire. Et où aussi on lui a permis d'entendre de la musique, puisqu'il y avait là un piano, puisque Delphine Potocka habitait là, et elle lui a chanté quelques airs. Un endroit particulièrement émouvant, où je remercie vraiment Béatrice de Plainval et Thierry Fritsch chez Chaumet de nous avoir accueillis, parce que personne n'avait jamais enregistré là. Ce n'est pas un endroit que l'on visite comme ça. Voilà.
Vue plongeante sur la Place Vendôme. Alors, ce Pleyel 1837 va nous donner l'occasion de commencer un peu le tour du propriétaire, puisque tu es un peu ici chez toi, dans cette pièce tout au moins, du château de Chanorier, ici à Croissy-sur-Seine. Ce Pleyel, il m'a étonné dès que je l'ai vu, dès que je suis rentré dans cette pièce, d'abord parce que vous savez toutes et tous que sous les cordes, il y a ce qu'on appelle la table d'harmonie. Hein. Et la table d'harmonie, ça fait beaucoup, beaucoup pour la sonorité du piano. Là, ce que je vois, c'est qu'il y en a une autre qui est posée, assez longue, qui est posée sur les cordes, enfin
au-dessus des cordes.
Au-dessus des cordes. Ça s'appelle comment ?
Ça s'appelle une fausse table. On a un peu perdu l'idée de ce à quoi ça pouvait servir. En définitive, ça a probablement plusieurs utilités. D'abord, c'est dans le même bois que le piano, donc c'est un élément qui cache les cordes d'une certaine manière, comme si on voulait un peu les faire oublier. C'est aussi un élément qui n'est que sur la partie médium grave et grave, qui n'est pas sur la partie aiguë. Donc on peut penser aussi que c'est un rôle de rééquilibrage, puisque les aigus sont plus faibles que les graves.
Certes.
Alors c'est une possibilité. Voilà. Mais ce piano a parmi ses caractéristiques des choses assez étonnantes. Ça va du détail, on va dire, un petit peu d'ébénisterie, comme par exemple le fameux bâton qui tient le couvercle, le grand couvercle ouvert, qui n'est pas posé à l'intérieur du piano, mais qui rentre quand on l'ouvre, qui rentre à l'intérieur du couvercle.
Ah oui, c'est dans, donc dans l'autre sens qu'on le prend, qu'on le saisit.
Voilà.
On le tient par le haut pour remettre...
Et on donc, le sort du couvercle.
Voilà, on le sort du couvercle.
Il fait partie du couvercle, au point d'ailleurs que les gens qui ne savent pas, quand ils ouvrent le piano la première fois, ils cherchent où est le bâton parce qu'ils ne le voient pas. C'est vrai que dans cette époque-là, les ébénistes essayaient toujours de faire des choses les plus élégantes, les plus discrètes possibles. Donc ce bâton qui a une fonction un peu... trivial de tenir là. En tout cas, on le cache une fois que pour le rentrer dans le piano. Alors ça, c'est une caractéristique un peu spéciale, mais il y a quelque chose de plus étonnant sur ce piano, qui est un chevalet à double étage. Parce qu'il ne faut pas oublier...
Qu'est-ce que c'est le chevalet?
Alors le chevalet, on a parlé de la table d'harmonie, il y a les cordes d'un côté, la table d'harmonie de l'autre. Pour faire fonctionner le piano, il faut que les cordes soient amplifiées. Donc la table d'harmonie, c'est l'amplificateur. Et pour relier les cordes à l'amplificateur, il faut ce chevalet qui transmet, comme sur un violon ou un violoncelle, c'est une pièce de bois, qui transmet la vibration qui se trouve ensuite amplifiée par la table d'harmonie. Eh bien, comme c'est une période où on fait beaucoup de recherches, ici nous sommes avec Erard et Pleyel, l'un et l'autre ont fait beaucoup de recherches dans des directions assez différentes. Pleyel avait surtout la recherche d'un piano qui résonne, et Erard avait plutôt l'idée d'un piano qui projette le son déjà. C'est sans doute d'ailleurs ce qui a fait que les pianos d'Erard ont tout de suite beaucoup plus accroché avec Liszt que ceux de Pleyel qui, au contraire, ont plus accroché avec Chopin.
Mais allons-y d'ailleurs sur cet Erard. Il y a quelques mètres à faire sur le beau parquet de ce salon. Et là, tu vas nous jouer. Ben, écoute, tu parles de Liszt. On a entendu tout à l'heure la très discrète étude en la bémol de Chopin. Joue-nous par exemple le début de Funérailles de Liszt. Alors attention, de l'autre côté du poste, reculez-vous d'un mètre, parce que cet Erard de 1844, c'est quelque chose en matière sonore.
On entend vraiment des cloches. C'est incroyable.
Ah oui, et d'ailleurs, là, tu viens d'enlever la pédale, mais on entend encore le son vibrer.
Oui, parce que les pianos de cette époque n'ont pas... Ils ont des défauts. Par exemple, on ne sait pas étouffer parfaitement le son, mais ça donne aussi des qualités. C'est comme pour le Pleyel, il n'est pas égal sur tout le clavier, il a des timbres différents, mais du coup, c'est une richesse, quelque part. Et les cordes sur le Erard sont des cordes parallèles. Et effectivement, il y a une grande longueur de cordes sur un instrument qui est beaucoup plus grand que le Pleyel, bien qu'il soit pas tellement différent d'époque, hein, ils sont presque contemporains. Mais comme je le disais, à cette époque-là, on fait beaucoup de recherches, donc on change très vite d'instrument, on les fabrique en petite quantité parce que presque d'un exemplaire à un autre, on introduit des modifications. On recherche en permanence à améliorer. C'est une période extraordinaire. Erard est un grand inventeur, donc il va se déchaîner notamment... en ce qui concerne la mécanique, est beaucoup plus sophistiquée que celle du Pleyel. Celle du Pleyel est plus simple, mais en même temps, c'est aussi ce qui fait son charme pour Chopin. Car il dit, avec le piano de Pleyel, le doigt est relié à la corde pratiquement comme un violoniste. C'est-à-dire qu'il y a peu d'intermédiaires entre la touche et la corde. Et on a une relation avec l'instrument plus étroite, une liaison plus directe, qui fait que si on sait le manier, on peut obtenir des choses absolument infinies. Varier à l'infini. Et c'est aussi ce qu'il extrapolait en disant « Ne travaillez pas sur Erard parce que le son est tout fait. Il est déjà très beau, vous n'aurez pas besoin de chercher et donc vous ne gagnerez pas en richesse sonore et vous, au contraire, ça vous appauvrira. Travaillez sur le Pleyel, c'est plus difficile, mais vous progresserez beaucoup plus. »
Et d'ailleurs, j'ai noté que tu allais enregistrer bientôt un disque Schumann sur ce piano Erard et à ce titre, je rappelle que tu as été le premier Français, avant Éric Lesage, qu'il a gagné quelques années plus tard, à remporter le prix Schumann à Zwickau en Allemagne, oui, de l'Est à l'époque.
Oui, Allemagne de l'Est à l'époque.
Alors qu'est-ce que ça donne Schumann sur ce piano?
Bah, par exemple, ça peut donner ça.
Voilà. Et en plus, il me vole mon indicatif. Varum, des Fantasia Stücke opus 12. Tu définirais l'approche du toucher sur un tel clavier? Parce que bon, toi, tu en as l'expérience, l'habitude, tu les joues beaucoup. Qu'est-ce que tu as dû quitter, peut-être, abandonner de ton savoir technique, instrumental, adapté à nos pianos modernes, à nos Steinway modernes et autres pianos, Yamaha, Bösendorfer,
pour éventuellement regagner autre chose à la fréquentation de ces pianos?
Alors, en vérité, on n'abandonne rien, on retrouve quelque chose qu'on peut avoir tendance à perdre et qui est absolument indispensable pour ce type d'instrument, c'est la liaison entre l'oreille et le toucher. C'est-à-dire que cette liaison peut être un peu absente quand on a l'habitude de piano standardisé, parce qu'on a besoin finalement de faire moins attention. Ici, si vous laissez un doigt faire ce qu'il veut sans le contrôler par l'oreille, ça s'entend immédiatement, vous êtes sanctionné tout de suite. Donc ça crée quelque chose...
Donc c'est hyper réactif, en fait.
C'est hyper réactif, hyper sensible. Même le Erard est très très sensible dans un autre genre, puisque comme je vous le disais, la mécanique est un peu plus complexe, donc il y a beaucoup plus de ressorts, de choses comme ça. Mais néanmoins, elle est quand même très réactive aussi. Et puis, il y a une autre dimension, peut-être plus sensible avec le Pleyel, qui est que ce ne sont pas des instruments puissants. Voilà. Et donc un instrument peu puissant.
Encore
vous
que
oblige.
Celui-là, c'est voilà, c'est pour on ça a que vu funérailles,
c'est pour ça,
ça alertait le peuple.
Hein. Je tempère le propos en disant que c'est surtout le Pleyel qui n'est pas du tout un instrument de concert, mais qui est un instrument de salon à l'époque, donc qui procède par rayonnement, et pour lequel il faut apprendre à doser beaucoup, avec une infinie précaution, tout ce qui est les progressions. Voilà. Et donc ça vous oblige à finalement... un plus grand respect de l'unité d'une œuvre, parce qu'avec nos pianos modernes, on peut aller de l'infiniment petit à la démesure totale, et quelquefois, pour des pièces romantiques, ça peut être nuisible pour l'unité. Et donc ça, on le retrouve très bien, c'est une exigence de l'instrument.
Alors, on va traverser le salon, on fait quelques pas, il y a le plancher qui craque, et on va aller vers un petit piano, un pianino, c'est ce qu'on appelle un pianino, de Ignace Pleyel, qui date de quelle année?
Alors, celui-ci, il est de 1853, et il est identique à celui qu'on trouve encore à l'heure actuelle dans la maison de Georges Sand à Nohant, qui date de 1849, qui a été racheté par Pauline Viardot pour Georges Sand et pour sa maison, puisqu'elle s'était séparée peu de temps auparavant de Chopin et avait donc renvoyé tout ce qui pouvait rappeler Chopin, y compris le piano, le petit pianino de Pleyel qui était dans le salon.
Voilà. Alors, il y a les bougeoirs sur les côtés, une marqueterie magnifique, la flamme des bois est absolument superbe. Je dois dire, il est dans un état parfait. Il y a même, alors ça, je ne sais pas comment on appelle ça, sur chaque côté, des candélabres, sans doute, voilà, sur le côté, le rabattant du couvercle. Et puis alors, les pieds sont superbes, hein, très, très ouvragés, sur les côtés aussi des poignées en cuivre. Tu vas ouvrir le petit couvercle qui se trouve sur le piano.
Justement, je voulais te montrer quelque chose, c'est qu'on peut chercher longtemps comment ouvrir ce couvercle avant de découvrir qu'il y a un bouton qui est pratiquement caché. Et il suffit d'appuyer dessus pour qu'ensuite, on puisse l'ouvrir. Mais...
Alors, qu'est-ce que tu peux nous jouer sur ce piano de 1853, ce pianino?
Alors, il faut dire d'abord que ces instruments étaient ceux que Chopin préférait. D'abord, non seulement parce que c'est Pleyel, mais aussi le format de cet instrument qui est petit, mais qui a un son magnifique. Et tous les cours qu'il donnait chez lui, où il avait à la fois un piano à queue de Pleyel comme celui qui est ici, et un pianino comme celui-là, lui, il était toujours au pianino et il laissait l'élève jouer sur le piano à queue. Et donc, il avait un plaisir particulier à jouer sur ces instruments. Là, je vais jouer très peu de choses parce qu'il n'a pas été restauré, donc on a des étouffoirs qui sont un peu excessivement mal réglés, on va dire.
Mais tout à l'heure, tu as joué quelques notes et moi, j'étais presque ému aux larmes. Enfin, il y a un grain dans la... Vous voyez, j'ai dit la voix, j'allais dire la voix, un grain dans la note, une matière, une substance d'une telle beauté.
Alors je vais vous jouer juste le début du premier thème du Larghetto, du concerto en fa mineur.
Merci, ça c'est superbe. Donc le pianino 1853, et là on va vers un instrument. On a dû installer les micros presque in extremis parce que je l'ai découvert, j'ai pianoté. Alors vous allez entendre, c'est faux, il n'est pas accordé. Mais ça c'est la petite merveille, c'est l'ancêtre, on va dire, qui veille jalousement sur les autres. C'est un piano carré En fait, il est rectangulaire, avec des cordes demi-filées, c'est-à-dire que vous voyez un fil s'enrouler à intervalles réguliers, c'est pas très serré, autour d'une corde centrale. C'est très, très, très beau, c'est en laiton. Et puis, c'est signé Sébastien Érard, et c'est un piano de 1787, donc j'allais dire il a pas fait la guerre, non, il a pas fait la révolution, parce que Érard a dû fuir à Londres pour échapper aux rigueurs de la Révolution française. Alors Yves, tu vas égrener juste quelques notes, peut-être un petit peu de Jean-Sébastien Bach qui était si cher à Chopin, sur ce piano carré de 1787 de Sébastien Érard.
Je dis tout de suite que je n'ai pas du tout l'habitude de cet instrument. Donc c'est quelque chose d'étonnant, je l'ai essayé tout à l'heure quand même pour ça, parce que là, on est au-delà même de la sensibilité du toucher de Pleyel dont je parlais tout à l'heure, de la réactivité, de ce contact avec la corde. Ici, c'est encore plus exacerbé, et donc il faudrait un entraînement tout à fait particulier pour tirer vraiment ce que l'on veut de l'instrument.
Oui, enfin j'ajoute que toi, tu as quand même cette fréquentation des instruments anciens, et que tout de suite tu t'es adapté. Moi, j'étais assis dans le canapé à côté, je me disais, mais c'est incroyable, on a l'impression qu'il a joué toute sa vie. Moi, je suis incapable d'émettre deux notes l'une derrière l'autre. Alors, on t'écoute. Pendant qu'Yves joue, je vois des tout petits marteaux, des petites tiges de quelques centimètres de long, 10 cm, 12 cm pour les plus longs, qui vont frapper les cordes. Enfin, frapper est un mot encore trop brutal. Tout ça est d'une délicatesse. Enfin, on est vraiment dans le raffinement et la fragilité de ce que pouvaient être ces premiers pianos, qui ne sont plus des pianos fortés. C'est vraiment la nouvelle technique qui est en marche. Là, ça y est, on commence à entrevoir ce que vont être nos pianos. Enfin, c'est là, tout est là, mais évidemment, dans de tout petits formats.
Il faut dire que c'était des instruments qui étaient destinés vraiment là pour la pratique de la musique à la maison, c'est-à-dire par exemple pour accompagner un chanteur. Il y avait en général un petit pupitre supplémentaire ici sur le côté droit. Il y avait comme deux places, si vous voulez. C'était presque un piano à deux places, la place pour le pianiste et la place pour le chanteur ou pour le flûtiste.
Voilà. La note la plus grave, tiens, remonte les notes. Voilà, quelques octaves, hein.
Cinq
octaves. Et le grand Pleyel de 1837, sur lequel tu as joué le prélude tout à l'heure, il y a 6,5 octaves, c'est ça ? Ben, montre-nous un petit peu, là encore, les notes extrêmes, peut-être dans l'autre sens, en les redescendant doucement. Merci pour cette belle démonstration. Puisque tu t'es rassis au Pleyel 1837, on va en profiter pour écouter cette fois un des chefs-d'œuvre de la fin, parce qu'avec le concerto tout à l'heure, c'était une œuvre de jeunesse. La berceuse opus 57, c'est vraiment les ultimes mois de composition de Chopin. On est en 1845-46.
C'est étonnant d'ailleurs, parce que j'ai parlé tout à l'heure de cet opus 45 quand Delacroix était là. Donc il y avait un lien vraiment entre la composition du moment et finalement le cercle des amis ou de la famille. C'est-à-dire qu'il y a ce lien très étroit toujours dans la musique romantique entre la vie du compositeur et finalement sa composition. Et là, c'est aussi le cas, puisque l'été où Chopin va composer La Berceuse, Pauline Viardot, qui est partie chanter en Europe, la grande cantatrice de l'époque, a laissé en garde à Nohant, à Georges Sand, et donc Chopin qui est là aussi, sa fille qui est très très jeune, c'est presque un bébé, elle marche quand même, mais elle est toute petite, et Chopin est absolument sous le charme de l'enfant, et d'ailleurs c'est réciproque. Il y a une très jolie lettre d'ailleurs où Georges Sand parle de cela à la comtesse Mariani, où elle raconte à la fois comment Chopin est devenu complètement subjugué par l'enfant, qui court autour de la table avec une patte de poulet pendant que le chien de la maison essaye d'attraper la patte de poulet. Donc on imagine bien les scènes de la vie familiale avec un Chopin qui finalement se sent très très bien dans cette atmosphère. Et c'est là, c'est cet été là qu'il va composer cette berceuse. Donc on peut tout à fait penser que c'est la présence de l'enfant qui lui a suggéré cette idée. Et puis sur le plan musical, il y a quelque chose d'assez extraordinaire dans cette berceuse qui est exactement finalement le contraire du prélude opus 45, puisque là on a une seule tonalité du début jusqu'à la fin.
Et avec une formule de main gauche que tu vas nous jouer d'ailleurs séparément, qui va recommencer, si ma mémoire est bonne, 55 fois.
Voilà.
C'est la même formule, c'est la première musique répétitive de l'histoire de la musique, pratiquement.
Et la prochaine, ça sera...
Après le fandango de Solaire. Voilà, le prélude. Hein. C'est quand même...
Ce sera le boléro de Ravel qui va reprendre un peu le principe, c'est de répéter toujours la même chose.
Circulaire,
voilà.
Mais des variations sur cette... harmonie unique.
Il faut rappeler que Chopin s'est fait connaître par les variations La Cidarem, La Mano. L'opus 2, salué par Schumann, était d'abord une série de variations et que toute sa vie, il a prouvé à quel point il était un maître dans cet art, y compris dans les ballades, dans la quatrième ballade, où le thème revient avec... On ne s'en rend même pas compte tellement il est varié.
Dramatisé.
Voilà, et je dirais que c'est un art qui est extrêmement révélateur d'un vrai compositeur, l'art de la variation. Vraiment, il est un maître dans ce domaine. Liszt n'arrive pas du tout à sa cheville.
Là, on arrive même à un niveau parce qu'on oublie la variation. Enfin, on est juste dans une espèce de spéculation improvisée, de rêve éveillé.
Et Liszt, quand il reprend un thème et qu'il le varie uniquement par l'arrangement. Mais il ne change jamais rien. Or, Chopin, justement, n'arrête pas de changer de manière extrêmement subtile.
Et alors qu'il s'impose l'idée d'une main gauche obstinée.
Et c'est un peu aussi l'esprit de Chopin, c'est-à-dire il s'impose des règles et il fait tout pour en sortir, tout en les respectant. Donc ça, c'est un esprit tout à fait particulier. Et là, on arrive à quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi ? Parce que cette répétition et en même temps cette invention permanente crée une espèce d'hallucination. C'est répétitif, mais sans l'être.
Et jusqu'à l'arrivée d'une note bleue, pratiquement, fameux do bémol.
Do bémol.
D'ailleurs, on n'en dit pas plus, on va l'attendre, nous aussi, impatiemment. Ici, au château Chanorier de Croissy, la berceuse opus 57 de Chopin sur un Pleyel 1837 au piano Yves Henry.
Thank you.
Nous venons d'entendre la berceuse opus 57 en ré bémol majeur de Chopin, interprétée sur ce beau Pleyel 1837 par Yves Henry. Alors Yves, deux petites choses. D'abord, je t'ai regardé jouer pendant cette berceuse. Je me suis aperçu que tu allais jusqu'à cette dernière note. Et en fait, ce piano, il est bien de 1837 et pas d'un peu plus tard. Parce qu'après l'opus 57, bon, il y a la sonate opus 58, les mazurkas opus 59 et la barcarolle opus 60. Et on a besoin d'une note un petit peu plus haute que celle-là.
On a besoin du fa dièse.
Donc, probablement, il existait sur le modèle de piano qu'avait Chopin moment où il écrit la barcarolle.
Oui, et puis quand il a fait ce fameux dernier concert à Paris en 1848 aussi, bien sûr. Mmh. Ce qui fait d'ailleurs que pour l'enregistrement que nous avons réalisé, on a utilisé un petit stratagème pour faire une prise où on a monté le fa du haut pour le transformer en fa dièse pour pouvoir avoir quand même la note juste.
Voilà, et voilà comment on révèle les secrets de famille.
Il faut quelquefois ajuster un petit peu.
Oui. Voilà, ce qui est frappant, c'est que quand j'ai joué un petit peu sur ce piano tout à l'heure, je t'ai dit, mais il me semble que les touches sont un petit peu plus étroites. Et tu m'as répondu...
Très juste, très bien observé, puisqu'effectivement, à l'époque, Pleyel n'hésitait pas à faire des claviers pour les femmes, donc avec des touches légèrement plus étroites. Ça ne se voit pas à l'œil nu, mais ça se sent très très bien quand on joue.
Et alors, sur cette note bleue, il se trouve qu'il y a quelques années, deux ou trois saisons, mon émission s'est déplacée à Nohant. On a enregistré deux ou trois émissions, dont l'une était consacrée au principal, à la berceuse de Chopin. Et j'avais, à l'époque, parlé d'une note bleue. Pour moi, ce n'est pas le do bémol, en fait. Pour moi, c'est la modulation qui arrive juste après en sol bémol majeur. C'est-à-dire qu'on a quand même toujours la même main gauche quand ce fameux do bémol arrive sur le ré bémol. Voilà. Mais sauf qu'après, il nous bascule pour une mesure.
Et en même temps, ça, c'est ce qui montre à quel point il est aussi un classique qui respecte les règles, puisque dans toutes les œuvres classiques, quand l'œuvre est finie, qu'on accède à la coda, c'est à ce moment-là qu'on fait cet emprunt à la sous-dominante. C'est un peu technique, mais c'est cette couleur.
Alors, il faut l'expliciter, voilà. Parce qu'ici, voilà. On explique. Alors,
oui, mais justement, donc, ça me plaît beaucoup.
Alors, la dominante, je crois que les auditeurs du Matin des Musiciens savent ce que c'est, parce que je leur ai dit tant et plus qu'était une dominante. Donc, il y a la tonique, le ton de ré bémol majeur, le ton de Chopin pour sa berceuse. La dominante, c'est le cinquième degré, en sachant que la tonique, c'est le premier degré, donc ré, mi, fa, sol, la, 1, 2, 3, 4, 5, donc le la bémol. Donc, et quand on fait cet accord-là, cela appelle logiquement, dans la musique occidentale de cette époque-là, la résolution sur le premier degré. C'est ce qu'on dit 5-1 dominante tonique. Voilà.
Oui.
Alors la sous-dominante. Alors la justement. Sous-dominante, il faut que tu nous expliques ce que c'est.
Tu sais que j'enseigne l'écriture au Conservatoire national.
Voilà. Ah ben oui, mais nous, on n'est pas très bons comme élèves.
J'aime beaucoup rendre les choses assez simples. Et finalement, la tonalité, c'est une question de percevoir une couleur. La couleur de ré bémol que vous venez d'entendre dans la berceuse, elle est lumineuse. Elle apporte quelque chose de très particulier. C'est une des tonalités préférées de Chopin. Et au passage, je vous dis pourquoi. Parce que ça, c'est la tonalité de ré bémol majeur. Et quand je change juste une note,
do
on passe
mineur.
En do dièse mineur. Et
en
là,
harmonie.
On
le
change...
Le do dièse et le ré bémol, c'est la même note sur le piano.
Oui, mais on change du monde des dièses au bémol et vice-versa. Et ça, ça donne accès à d'autres enchaînements, d'autres couleurs. Donc, revenons au fameux do bémol de la fin de la berceuse, donc tonalité de ré bémol majeur, dans laquelle on a ces notes. Voilà, c'est le mode majeur qui a une couleur particulière. Et puis, Chopin introduit cette note qui nous fait basculer dans celle-ci. Et cette tonalité sol bémol majeur, c'est celle...
Troisième impromptu de Schubert, mais aussi troisième impromptu de Chopin.
Voilà, absolument. Et donc, quand on change une note, voilà, il suffit de changer une note pour changer d'univers sonore. Alors là, c'est très, très bref, tu l'as dit, effectivement, parce qu'on est à la fin du morceau. Et c'est juste comme une sorte de petit regret qui vient. Voilà,
alors, est-ce que c'est la note bleue pour toi ? Non, la note bleue pour toi, c'est le do bémol ?
Non, pour moi, la note bleue, c'est quelque chose de dissonant. Alors là, c'est vrai que c'est un peu dissonant. Voilà.
C'est dissonant parce qu'on a eu pendant 4 minutes ou 3 minutes
le même envahissement de ré bémol majeur. On est pris dans la nasse de ce ton
et
unique.
Et c'est aussi ce qu'on a. Mais il aime beaucoup faire ça. Et il fait quelque chose de similaire dans le 22e prélude des 24 préludes.
Absolument.
Puisque celui-là qui est en fa majeur. Et qui finit comme ça, puis il ajoute juste. Voilà. Alors là, on pourrait dire que c'est un note bleu parce qu'elle ne se résout pas. Et donc, ça laisse quelque chose de mystérieux en suspens.
Voilà. Ah, les explications de la note bleue par Yves Henry, on aura attendu 9 ans pour en avoir de lumineuses. Ça, merci, merci beaucoup. On va revenir à ton coffret qui est édité aux éditions Soupir, ce coffret qui reconstitue le dernier concert de Chopin à Paris le 16 février 1848 et dans lequel figure la sonate pour violoncelle et piano, qui est très proche en opus, enfin,
c'est
très contemporain de cette berceuse, de la barcarolle, des mazurkas et des valses et des grands nocturnes opus 62.
Voilà, ce qui est formidable dans ce programme de concert, c'est que c'est Chopin qui l'a conçu.
Voilà.
Ça, c'est extraordinaire, et il y a mis tout ce qu'il aime, c'est-à-dire, c'est une sorte presque de testament. Il y a Mozart, qu'il place au-dessus de tout, il y a bien sûr la voix. Alors à la fois avec Mozart et le bel canto avec Bellini,
oui,
qu'on a entendu.
Oui,
et puis il y a le violoncelle qui est l'autre instrument, à part le piano, pour lequel il a une prédilection extraordinaire, parce que pour lui, ça se rapproche de la voix humaine qui est placée au-dessus de tout. Et puis il y a quelques œuvres de piano, où il y en a pas mal d'ailleurs, mais dans lesquelles il y a les œuvres récentes comme la barcarolle, comme certaines
mazurkas. La berceuse.
Et la berceuse en particulier.
Et les dernières, mazurkas. Alors on va écouter le mouvement lent, qui est alors une élégie magnifique, l'adagio extrait de cette sonate opus 65 pour violoncelle et piano, que Chopin a créé avec le grand violoncelliste de l'époque, Franck Côme, qui était son ami. Et c'est ici le jeune violoncelliste Adrien Frasse-Sombet qui joue sur un Goffriller magnifique de 1710. Tu l'accompagnes toujours sur ce piano-là, ce Pleyel 1837, et dans les salons Chaumet sur la place Vendôme, là où a vécu la comtesse Potocka.
Nous venons d'entendre l'adagio de la sonate opus 65 pour violoncelle et piano de Frédéric Chopin, joué par Adrien Frasse-Sombet, un tout jeune violoncelliste de 25 ans, et accompagné par Yves Henry sur un piano Pleyel de 1837 qui ne nous a pas quittés depuis le début de cette émission, ici dans le salon, alors qu'est-ce qu'on va dire, le salon de musique.
Le salon romantique.
Le salon romantique, voilà, du château Chanorier à Croissy-sur-Seine, tout à côté de Paris, où nous sommes pour cette émission. Et on va écouter maintenant Yves Henry, d'abord sur ce Pleyel, toujours le même, une mazurka opus 63 de Chopin, donc une des toutes dernières œuvres de Chopin, écrite de, enfin publiée de son vivant.
Oui, une des œuvres d'ailleurs contemporaines directement de cette sonate qui a été commencée à Nohant. Cette dernière sonate pour violoncelle et piano, c'est la dernière des grandes sonates de Chopin, commencée à Nohant, mais terminée plus tard à Paris, puisqu'il y a eu la rupture entre-temps avec George Sand. Mais ce que je vais vous jouer maintenant, ce sont des œuvres qui ont été aussi composées à Nohant, notamment cette mazurka.
Et sera suivie sur le Pleyel toujours par une des valses opus 64. Et puis alors, tu feras quelques mètres, tu iras sur le Erard qui a inauguré l'émission tout à l'heure, ce splendide Erard assez puissant, riche d'harmonique, pour conclure avec une valse bien connue de l'opus 64 de Chopin. Alors, est-ce qu'on dit le petit chien ?
Oui, on peut dire le petit chien, parce que justement, c'est le dernier séjour que Chopin fait à Nohant. Et à l'époque, il ne veut plus aller se promener avec tout le monde. Il dit, je suis austère, ça n'amuse personne et ça embête tout le monde. Je préfère rester composé et je reste en compagnie du chien de George Sand, ce fameux petit chien blanc qui avait pour habitude de courir autour de lui-même pour attraper sa queue. Et c'est ce petit chien qui lui a très probablement inspiré, en tout cas, cette valse qui tournoie. Et auparavant, donc la mazurka que je vous jouerai, qui est en ut dièse mineur, et la valse qui était aussi en ut dièse mineur, et cette valse dernière qui est en ré bémol majeur. Donc vous voyez, on tourne autour de cette
do dièse ré bémol, c'est la même note, voilà, au piano, enfin la même touche.
C'est la même touche.
Les violonistes, c'est pas tout à fait pour non, la non. même chose. Les violonistes bougent à peine le doigt, plus bas, plus haut, parce que dièse et bémol, ça ne signifie pas la même chose pour l'oreille d'un violoniste.
Tout à fait. Donc d'abord, cette mazurka qui est extrêmement nostalgique, qui est une des dernières, pas la dernière. La dernière, il la composera dans la dernière année de sa vie, mais elle ne sera pas terminée. Elle est assez prémonitoire et très wagnérienne dans ses modulations. Mais voilà, c'est une mazurka que j'aime beaucoup.
Yves Henry pour le Matin des musiciens du mercredi.
grand merci Yves Henry, ici au château Chanaurier de Croissy-sur-Seine, tout à côté de Paris, là où sont entreposés des Érard et des Pleyel à queue et droit, carrés ou rectangulaires, qui ont été fabriqués donc entre 1787 et 1844. Là, tu jouais le Érard de 1844, une mazurka de Chopin, opus 63, et deux valses, opus 64. Enfin, tu as joué aussi, juste avant, sur le Pleyel, qui est juste derrière moi, un beau Pleyel de 1837. Alors, merci beaucoup, beaucoup de nous avoir reçus ici, dans cette pièce du château Chanaurier. Je voudrais aussi remercier tout particulièrement M. Frédéric Desplat, qui accorde, qui règle, qui veille sur ces pianos, vraiment, enfin, qui sont toute sa vie. Hein, vraiment, je crois qu'il le fait avec beaucoup de soin, beaucoup d'amour, beaucoup de temps aussi, et de méticulosité. Merci à vous, Monsieur Desplat. Et puis, bien sûr, je voudrais remercier l'équipe de France Musique qui s'est déplacée ici au château de Croissy, alors qu'il a réalisé des prodiges. Il y a une forêt de micros pour capter la substantifique moelle de tous ces pianos. Je crois que les auditeurs de France Musique ont pu saisir toute la beauté de ces différents instruments. Alors, je remercie donc Gérard Cognier, Sébastien Huel et Patrick Muller à la prise de son. Mon assistante pour cette émission, c'est Barbara Alotto. Et bien sûr, la chargée de réalisation, c'est Marie Grouge. Je vous remercie aussi, public qui est venu ici au château de Croissy-sur-Seine. On ne quittera pas les lieux la semaine prochaine. On sera toujours ici, cette fois pour une émission consacrée à Mendelssohn. Donc à la semaine prochaine, et d'ici là, eh bien, belle musique à vous tous.